Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis, le débat du samedi. Le clivage droite-gauche a-t-il encore un sens? Question posée depuis au moins 2017 et la victoire à la présidentielle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, candidat qui se présentait comme et de droite et de gauche. J'ouvre les guillemets. Beaucoup y ont vu la confirmation éclatante de ce que la vieille opposition ne répondait plus aux attentes du corps électoral et qu'elle était décidément entrée dans la voie de l'obsolescence. Ces mots sont d'un grand philosophe et historien, l'un de nos intellectuels majeurs. Il a fait, lui, le pari complètement inverse. Il pense que le clivage droite-gauche a, je le cite, encore de beaux jours devant lui et même qu'il est urgent d'en débattre pour comprendre le champ politique français. Marcel Gauchet publie deux ouvrages, La droite et la gauche, histoire et destin chez Gallimard, et puis Macron, les leçons d'un échec, comprendre le malheur français, le titre a au moins le mérite d'être clair, c'est chez Stock, gauche-droite, mode d'emploi, bilan du quinquennat, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Marcel Gauchet pour en débattre.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Et pour commencer, un phénomène de saison, non pas les feuilles mortes, mais d'autres types d'événements saisonniers.
Les sondages dont on parle beaucoup, depuis des mois et des mois, ils disent que je suis celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui, au second tour, est le seul capable de battre Emmanuel Macron. Voilà la vérité.
Sur le terrain de la présidentielle, il y a avant tout les sondeurs et les journalistes. Les percées d'aujourd'hui ne seront pas forcément les percées de demain.
C'était Xavier Bertrand, d'abord le 30 septembre et puis le 6 octobre. Il a donc deux avis sur la question des sondages. Comme beaucoup d'entre nous, Natacha, c'est à la une de votre magazine de Marianne cette semaine. Dans la cuisine des sondages, un par jour jusqu'à l'overdose, c'est l'un des intertitres. Alors vous posez la question de savoir qui la commande, qui servent-ils. Mais les sondages, c'est une tradition de les lire, de les commenter et de les critiquer.
Oui, il y a un phénomène majeur qui est assez nouveau cette année par rapport aux autres élections présidentielles, c'est d'abord l'inflation du nombre de sondages. Bon, on voit cette augmentation depuis 2002, elle est particulièrement frappante là, c'est le premier point, et d'ailleurs c'est pour ça que notre dossier rappelle une chose précise, à savoir qu'on parle d'instituts de sondage, mais ce sont des entreprises. Et une entreprise, elle doit vivre, elle doit vendre. Donc on explique d'ailleurs dans le dossier exactement comment ça marche, qui commande les sondages, en effet c'est une question.
Et combien ça coûte?
Combien ça coûte?
La question à 700 euros par exemple.
Exactement. Est-ce que les sondés sont rémunérés? Non, ils ont droit à des chèques cadeaux de temps en temps.
Voilà, juste une précision, il vous arrive d'en commander à Marianne des sondages?
Assez rarement, d'abord parce qu'on est un petit journal, on n'a pas beaucoup d'argent. En général, il nous arrive éventuellement de nous greffer sur un sondage qui a été fait plus globalement, mais qui comporte des éléments qui peuvent nous intéresser étant donné nos thématiques, c'est-à-dire les questions soit d'inégalité sociale, soit de laïcité, etc. Mais on commande assez rarement des sondages directement.
Mais overdose de sondages.
Le point essentiel, me semble-t-il, en ce début d'année, c'est le fait qu'on observe une montée fulgurante d'Éric Zemmour dans les sondages. Ça devient un phénomène et les citoyens se posent une question qui me semble légitime. Est-ce que les sondages qui font monter Éric Zemmour accentuent encore ce phénomène? Est-ce que les sondages qui montrent qu'il monte le font monter? Et c'est une question extrêmement complexe parce que si les sondages montrent ça, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une bulle. Les sondages ne font que traduire quelque chose qui est en train de se passer. Pour autant, quand on voit un sondage dans le magazine Challenge mettre Éric Zemmour à 17% tout à coup devant Marine Le Pen, ce qui bouleverse les équilibres à la droite et à l'extrême droite, On peut aussi se poser quelques questions. On a tous eu l'impression qu'il y avait un concours, une course à l'échalote entre les instituts, à celui qui serait le premier à le mettre à 10%, puis à 15%, puis au second tour. C'est tout de même un petit peu gênant.
Et à propos du sondage dont vous parlez, c'est un sondage Harris Interactive de mercredi. C'est la première fois depuis 8 ans que dans un sondage, Marine Le Pen n'est pas donnée au second tour de la présidentielle. Gilles, vous vous êtes intéressé par les sondages, vous êtes passionné par les sondages. Je ne sais pas si ça va jusqu'à l'overdose.
Ça peut aller jusqu'à l'overdose. Les sondages sont un des outils de connaissance de la société. C'est le signe d'une société démocratique. Vous n'avez pas de sondage dans les régimes totalitaires. Les instituts de sondage français sont plutôt bons par rapport à leurs homologues étrangers. Notamment, ils ont la caractéristique de ne pas être affiliés à un camp politique, mais de faire un travail scientifique. C'est pas toujours le cas ailleurs. Natacha Polony, je crois, a raison de dire que les sondages jouent un rôle. Ils jouent un rôle sur le climat, ils jouent un rôle sur l'agenda, ce dont on parle, ils jouent un rôle sur le moral des candidats et ils jouent un rôle aussi, pour partie, sur le vote stratégique des électeurs. On a aujourd'hui, je partage, en dépit de ma passion pour les sondages, ce que dit Natacha Polony, nous avons trop de sondages, on a trop de sondages d'intention de vote et on a trop de mauvais sondages d'intention de vote.
Alors expliquez-nous ça, pourquoi ?
La une de Marianne, c'est dans la cuisine des sondages. Si on essaye d'y rentrer et de mettre ça dans le débat public de manière simple, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes qui font qu'il faut prendre les sondages avec beaucoup de circonspection, beaucoup de prudence. D'abord, la taille des échantillons. Un sondage, normalement, vous prenez 1000 Français, c'est un échantillon statistiquement suffisamment robuste. Dans une intention de vote, dans le moment présent, si vous faites un sondage, et c'est un peu celui que vous évoquiez d'Harris Interactive, dans lequel il y a 1200 Français qui sont interrogés, ça veut dire que vous avez 1000 Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Sur ces 1000 Français qui sont inscrits sur les listes électorales, vous en avez 500 qui sont sûrs d'aller voter. Ça veut dire que, concrètement, un candidat qui fait 25%, son score se situe entre 20 et 30%. Donc, d'accord, la taille de l'échantillon, c'est très important. Et quand on fait un sondage dans le moment avec 1000 ou 1200 personnes, c'est insuffisant. Deuxième problème, la qualité de l'échantillon. Pour qu'un sondage soit bon, il faut qu'il soit représentatif de la population française. D'un point de vue social, ce n'est pas très compliqué. L'INSEE dit combien il faut d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de riches, de pauvres, d'urbains, de ruraux. Mais il faut aussi qu'il y ait une représentation politique. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut reconstituer les votes précédents. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier. Enfin, il faut déterminer le corps électoral. Qui vote ? Et c'est très compliqué. Dans une élection présidentielle normale, vous avez 80% de votants. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est aux alentours de 50-55%. Et donc, on voit sur chacun de ces critères qu'on est dans un moment qui est difficile. Et donc, il faut prendre avec beaucoup de prudence les sondages, sans doute leur accorder peu d'intérêt. Et vous voyez, moi qui suis passionné par les sondages, et ben ces sondages d'intention de vote, je ne les regarde même pas tous.
Vous ne les regardez pas tous, vous ne les commentez pas tous non plus, Natacha.
C'est ça l'essentiel. Juste pour expliquer ce que disait Gilles à l'instant sur la question de la reconstitution des votes, j'ai appris, moi, en lisant le travail des journalistes de Marianne sur ces questions-là, que par exemple, quand on interroge les Français, il y en a 30% qui disent avoir voté Emmanuel Macron, ce qui est quand même extrêmement drôle. C'est-à-dire que au premier tour. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens reconstituent parce qu'ils ont besoin d'être dans le camp du gagnant. Ce qui fait évidemment, ce qui rend beaucoup plus compliqué, ce qu'expliquait Gilles sur la façon dont ensuite on va évaluer où se situe, si l'échantillon est représentatif.
Mais surtout, est-ce que ça fait de certains candidats des produits sondagiers ? L'expression, elle a été employée par Valérie Pécresse en Alsace pour parler notamment d'Éric Zemmour.
Alors,
produits sondagiers,
c'est
vraiment réduire un potentiel candidat.
Non mais c'est le jeu de quelqu'un qui se sent justement fragilisé. Je pense que la question c'est celle du rôle des commentateurs, des analystes, des éditorialistes, des journalistes face à ces phénomènes-là. Et le problème est en effet d'avoir une mécanique où la réflexion politique est réduite aux commentaires des sondages, c'est-à-dire machin monte, bidule descend, alors ça veut dire que peut-être l'autre va passer devant et affaiblir, etc. Ça, c'est le degré zéro de la réflexion politique. Et notre rôle à nous, c'est évidemment de ne pas nier qu'il y a un phénomène, qu'il y a une dynamique, et d'essayer d'en comprendre justement les fondements, c'est-à-dire ce qui explique cette dynamique, tout en ayant un certain recul sur ce que ça signifie, puisque c'est momentané et volatile, mais surtout de se demander quels sont les rapports de force idéologiques, ce qu'attendent les Français, ce qu'ils considèrent comme essentiel face à une élection présidentielle, c'est-à-dire les décisions, les thématiques, la projection. Justement. C'est tout ça le cœur du problème, c'est pas de savoir si machin passe devant truc.
Un mot, Gilles.
Oui, un mot. La montée d'Éric Zemmour n'est pas un produit sondagier, ça serait une erreur et même une faute que de le penser. Ça dit beaucoup, en revanche, de ce qu'est la politique aujourd'hui, dans laquelle on en a une approche ludique, savoir qui gagne, on en a une approche esthétique, qui est bon, mais où, au moment même où les enjeux sont plus décisifs sans doute qu'auparavant, la politique a perdu de sa centralité et de sa gravité, mais il y a un bon usage des sondages, c'est d'avoir des échantillons qui sont plus importants et de regarder, non pas les intentions de vote, mais de regarder ce qui fait l'arrière-plan, le fond d'une élection. Et là, pour le coup, les sondages peuvent être très utiles.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Nous allons déposer un amendement dans le cadre de la loi de finances pour 2022 dont vous allez débattre, qui va nous permettre d'agir sur le levier fiscal en cas de nécessité, c'est-à-dire d'abaisser les taxes spécifiques qui pèsent sur le prix du gaz, de façon à protéger non seulement le pouvoir d'achat des plus modestes, mais de l'ensemble des consommateurs de ces énergies.
Agir sur la fiscalité si les prix du gaz ne baissent pas d'ici au printemps prochain, c'est la promesse que faisait le Premier ministre Jean Castex mardi, que vous écoutiez Jean Castex à l'instant. Et cette question du pouvoir d'achat, c'était déjà un enjeu pendant la pandémie, protéger le pouvoir d'achat des Français qui n'a pas baissé, et c'est ce qui est absolument exceptionnel en temps de crise majeure comme celle que nous traversons. Mais avec le retour de l'inflation, le Premier ministre reprend le sujet du pouvoir d'achat. Gilles, comment l'expliquer ?
Tout simplement parce que le sujet redevient un sujet central. Il l'était pendant la pandémie, il l'était pendant le mouvement des Gilets jaunes, il l'était il y a 15 ans lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, travailler plus pour gagner plus, et il redevient aujourd'hui parce que le chômage baisse, et quand le chômage baisse, les préoccupations pour le pouvoir d'achat montent corrélativement, parce que les prix, beaucoup de prix augmentent, et parce que je crois que la pandémie a eu des effets importants. Il y a eu cette idée qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent pour l'État et il y avait sans doute de l'argent pour les entreprises. Et donc, il y a des choses qui redevenaient possibles. Et parce que le rapport au travail, sans doute, a changé aussi. On le voit dans un certain nombre de secteurs qui ont des difficultés à recruter. Et comme le disait Joe Biden, en trois mots, eh bien, si vous avez des difficultés à recruter, payez-les plus.
Natacha Polony.
Je pense que c'est très intéressant la façon dont ressurgit cette question du pouvoir d'achat. Parce que la réponse actuelle du gouvernement, et elle se comprend parfaitement en période électorale, hein, c'est une réponse immédiate dans l'urgence. On baisse les taxes, on donne à ceux qui ont le plus de mal à vivre un chèque, le chèque énergie, pour essayer de compenser, c'est-à-dire qu'on met des pansements. L'avantage de cette paradoxale de cette montée des prix des matières premières, de l'énergie, c'est-à-dire de produits de première nécessité qui font partie de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire ce qui est le plus insupportable aux gens dans la mesure où ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas décider de se priver de ces éléments-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça remet sur la table quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus systémique que la question de savoir si on va baisser les taxes. Ouais, c'est la question des salaires. Et donc, on peut peut-être espérer que cette inflation enclenche un cercle vertueux qui va provoquer une augmentation mesurée des salaires, on sait très bien que l'inflation ne doit pas s'emballer, mais qui pourrait casser un petit peu cette politique austéritaire qu'on avait depuis plus d'une décennie, et c'est en fait un système qui défavorisait les classes moyennes, les entrants sur le marché, et qui favorisait les rentiers. Le rôle de l'inflation, c'est ça. Deuxième point, qui me semble important, c'est que ce qui manque, c'est la réflexion de fond sur la façon dont on peut répondre à long terme à cette volatilité, notamment des prix de l'énergie. Et sur les matières premières, la question de savoir comment on fait pour préserver la relance française, par exemple, quand on voit que la France a du bois, énormément de bois, et que le prix du bois augmente, engendrant des pénuries en France parce que notre bois est acheté plus cher par la Chine. Donc il y a des tas de questions qui se posent sur l'énergie, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Il y a des politiques de long terme à mener et ça, c'est ce qui manque, ça n'est absolument pas pensé.
Gilles.
Oui, ce que je trouve très intéressant dans la période, c'est cet écart très important entre ce que dit le gouvernement cette semaine même avec le rapport économique, social et financier qui a été publié par Bercy, dans lequel il est démontré que ce quinquennat s'est traduit par une augmentation du pouvoir d'achat plus importante que dans les deux quinquennats précédents, et ce que ressentent les Français, qui est exactement l'inverse. Je pense que ça s'explique pour partie par ce que dit Natacha, qui est très important, c'est que la question n'est pas seulement le pouvoir d'achat, c'est ce que la CFDT appelle le pouvoir de vivre. C'est-à-dire qu'il faut intégrer les dépenses contraintes qui sont de plus en plus importantes, l'énergie,
le téléphone portable, l'abonnement Internet.
Absolument. Mais qui font partie de la vie.
De la base, oui.
Donc, il y a ça. Il y a une dimension technique qui est que le pouvoir d'achat collectif augmente lorsque, comme c'est le cas, on a 800 000 emplois qui sont créés. Mais ce qui est vrai au niveau collectif ne l'est plus nécessairement au niveau individuel. Et puis, il y a une loi de psychologie sociale qui est maintenant bien connue, c'est que la perception du pouvoir d'achat, évidemment, est relative, et que c'est la célèbre formule « être riche, c'est gagner 10% de plus que son beau-frère », et que donc, c'est aussi en comparant aux autres que l'on voit ça. Je termine juste d'un tout petit mot oui. sur ce que disait sur l'avenir. On voit que chaque candidat, là, a ses recettes pour augmenter le pouvoir d'achat. On s'est beaucoup concentré sur les questions de redistribution et de fiscalité, et le Premier ministre vient de le faire à nouveau. Je crois qu'il faut peut-être se concentrer maintenant davantage sur les questions non pas de redistribution, mais de répartition, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans la répartition du capital, est-ce qu'on y associe davantage les salariés, dans la répartition entre le capital et le travail, et s'agissant du travail, sur les écarts de salaire. Là est sans doute la clé la plus déterminante pour l'avenir.
C'est certes, quasiment un discours de campagne.
Non mais sauf que j'y ajouterais une chose.
Je ne suis pas candidat.
Oui, la répartition capital-travail est une réflexion à mener. Je suis bien d'accord. L'organisation même de la structure des entreprises. Mais il ne faut peut-être pas oublier quelque chose. C'est aussi la question de la réindustrialisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation durable du pouvoir d'achat s'il n'y a pas d'abord une politique de production. La France ne produit plus. Et c'est pour ça que quand vous dites, Gilles, qu'il y a... Une augmentation du nombre d'emplois qui mécaniquement va augmenter le pouvoir d'achat global, certes, mais la question est de savoir quelle est la durée de vie de ces emplois. La France a un déficit commercial de 80 milliards d'euros. C'est absolument monstrueux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si là, actuellement, les entreprises heureusement, non pas licenciées parce qu'elles ont été aidées, ce qui explique qu'en ce moment de reprise, il y ait une baisse du chômage forte, ça ne veut pas dire qu'à moyen ou long terme, ça va continuer, tout simplement parce que si on ne recommence pas à produire sur notre sol, ça ne marchera pas parce que ce sont les emplois industriels qui créent le plus de valeur ajoutée, qui créent des emplois de service autour, et c'est ça qui nous manque terriblement et qui plombe la croissance française.
Alors, mille fois d'accord. On ne peut redistribuer et répartir que ce qui est créé, donc la production, notamment l'industrie, pas seulement l'industrie. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne dans la campagne présidentielle, dans la campagne législative, la proposition phare du SPD qui a gagné pour partie l'élection là-dessus, c'était une augmentation de 30% du SMIC qui passe de 9 à 12 euros, donc supérieur au niveau actuel. Et ça, c'est permis aussi parce que le niveau de production allemand est plus important.
Vous écoutez le grand face-à-face de France Inter et le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Ce qui était impressionnant dans les auditions de victimes, c'est de découvrir à quel point les existences pouvaient être abîmées, pouvaient être blessées, et pouvaient être même détruites par les violences sexuelles. Et puis, la dernière découverte, ça a été une découverte portant sur le nombre, et ça, ça a fait l'objet en mars dernier, dans notre groupe, effectivement, d'une véritable sidération.
C'était Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuel dans l'église, qui a mené une enquête pendant 2 ans et demi et qui rendait son rapport en début de semaine. Vous l'entendiez dire, la véritable sidération qu'ont ressenti les membres de cette commission lorsqu'ils ont mesuré l'ampleur du phénomène, et un phénomène qui présente un caractère systémique, disait Jean-Marc Sauvé, la commission qui appelle l'Église catholique à reconnaître sa responsabilité en tant qu'institution. Le scandale de la pédocriminalité, des agressions sexuelles n'en finit pas, Natacha. Comment est-ce que le clergé peut-il agir, ou comment devrait-il agir?
Alors, le premier point, me semble-t-il, c'est en effet que même s'il y a eu une prise de conscience et que ce rapport n'aurait pas existé si l'Église n'avait pas pris conscience du problème et n'avait pas décidé de l'assumer, donc ça c'est plutôt le point positif, pour autant la dimension systémique du problème est absolument essentielle, dans la mesure où ce que montre très bien ce rapport, c'est le fait que c'est dans la conception même de la place du prêtre face aux fidèles qu'il y a un problème qui facilite le passage à l'acte, qui facilite les agressions et le silence. On peut ajouter, et même si le rapport ne va pas jusqu'à ce terrain-là, que la question qui se pose juste derrière est celle du célibat des prêtres. Certes, ça horripile l'Église encore quand on met cela sur la table, mais de fait, il y a un problème majeur dans la façon. Alors l'Église a beaucoup travaillé sur le recrutement et sur la vérification, la réflexion sur la nature des vocations. Pour autant, ce travail reste à accomplir. J'ajoute un autre point. La réaction du président de la Conférence des évêques de France, se retrouvant un peu acculé au sujet de la question du secret de la confession, et finissant par dire au micro de France Info que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République, là est une erreur majeure, dans la mesure où nous sommes dans une période où nous avons conscience que une religion comme l'islam, par exemple, a du mal pour certains de ses fidèles les plus rigoureux à comprendre que les lois de la République s'imposent, que le président de la Conférence des évêques de France sorte une énormité pareille, est tout de même effarant, même si il s'est rétracté ensuite, il a affiné, mais tout de même on sent bien que là il y a quelque chose qui est pas complètement intégré.
Gilles,
on peut dire que ce travail a été tardif, trop tardif, et il l'a été. Le travail de la commission Sauvé est malgré tout absolument remarquable et même admirable par l'ampleur des travaux qui ont été faits, le travail sur les archives, le recueil des témoignages, l'enquête auprès de la population et la rigueur, la clarté et le courage de ce rapport. Vous disiez c'est un choc, je crois que c'est un triple choc pour l'Église. C'est l'ampleur des cas constatés, 330 000, ce que Natacha disait, c'est-à-dire l'implication de l'Église en tant qu'institution, c'est-à-dire que c'est pas des problèmes individuels, c'est un problème institutionnel. Et le troisième qui n'a pas été souligné, c'est le fait que les chiffres sont stables et que donc l'Église pouvait espérer que ce soit un problème mineur du passé. On voit que c'est un problème majeur du présent. Mais ce qui me frappe le plus,
d'un mot,
c'est que ça devrait être un choc au-delà de l'Église pour la société tout entière. Parce que si 330 000, ça nous saisit, il y a 5 millions et demi de Français. C'est ça aussi que révèle l'enquête qui a été faite en population générale. 5 millions et demi de Français qui ont été victimes d'abus sexuels. Et on a un paradoxe saisissant. La famille est l'institution dans laquelle les Français ont le plus confiance, et c'est l'institution dans laquelle ils sont le plus en danger. Et donc, le risque est de refermer une nouvelle fois le couvercle, parce que c'est abject, parce que ça sape un des fondements de notre société. Et notre défi, c'est de ne pas refermer ce couvercle, d'agir, de savoir. Et je crois qu'il faut se féliciter que le gouvernement, Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance, ait créé une commission sauvée à l'échelle de la société tout entière. Et il faut lui donner les moyens, le temps de travailler pour que ce travail-là soit fait aussi sur l'ensemble de la société.
Et qu'en pense notre invité, lui qui avait écrit un livre fondamental sur l'histoire politique de la religion et notamment du christianisme. Ce livre, c'était Le désenchantement du monde. Marcel Gauchet est l'invité du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Le désenchantement du monde, qu'en pense-t-il aujourd'hui? Ce n'est pourtant pas le point de départ des questions politiques que nous allons aborder ce samedi. Il a mené un travail de plusieurs années qui a commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Il a suivi l'expérience politique qui se proposait de remédier, je cite, au malheur français. Des conversations entre Marcel Gauchet et le journaliste Éric Conan et le philosophe François Azouvi. En est né un livre, Comprendre le malheur français. L'analyse de l'action Macron se termine avec le quinquennat. À l'arrivée, le bilan est sans mystère, écrit-il. L'expérience se solde par un échec, mais un échec hautement instructif qui jette une lumière crue sur les causes du malheur français. Je ferme les guillemets. Un bilan qui figure tout au début de ce livre, Macron, les leçons d'un échec, et qui paraît aux éditions Stock. Bonjour Marcel Gauchet.
Bonjour.
Désenchantement du monde, un bilan dramatique, un échec hautement instructif, les causes du malheur français. Et pourtant, vous avez le sourire ce matin.
Je ne vois pas bien le rapport entre les deux phénomènes.
Ah l'accablement de ce que vous décrivez et votre joie d'aujourd'hui... Il y a un
joie
contraste.
Est un mot excessif, mais je réagissais à votre accueil chaleureux
et intéressé.
Souriant, donc rien de plus.
Philosophe, historien du politique, je signale aussi la parution d'un article que vous aviez imaginé pour les lieux de mémoire autour de la droite et de la gauche, histoire et destin. Cet article est publié maintenant chez Gallimard avec des postfaces et des ajouts introductifs. J'ai hâte de vous entendre débattre avec Gilles et Natacha, mais d'abord, première question toute simple. Pourquoi Macron, les leçons d'un échec? Je disais que le quinquennat se terminait, mais il n'est toujours pas terminé. Pourquoi avoir décidé, avant même la fin, qu'il fallait y voir un échec?
Parce que ce serait un miracle que la trajectoire du quinquennat d'Emmanuel Macron change de direction brutalement à quelques mois de la réélection potentielle du candidat. Je crois que l'échec dont il s'agit, et il faut bien le préciser, c'est l'échec par rapport à ce qu'a été la grande ambition d'Emmanuel Macron, qui a fait de son quinquennat un quinquennat d'exception, de rupture, de transformation, de révolution, disait-il dans un livre programmatique.
Quand il était candidat.
C'est cette grande ambition qui a fait de son élection un événement politique hors du système auquel nous étions habitués. C'est cela qui justifie aussi aujourd'hui, avant même qu'il ait achevé son quinquennat, de revenir sur ce qui n'a pas fonctionné dans cette immense ambition qui était la sienne.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous pointez le fait que cet échec est dû peut-être à un malentendu, à savoir qu'Emmanuel Macron prétend à son arrivée avoir pointé du doigt, avoir compris ce qu'était ce que vous appelez le malheur français, avoir su le nommer, notamment à travers son idée d'émancipation, de possibilité de réparer tout ce qui était bloqué dans la société. Or, vous montrez qu'en fait, il n'avait pas compris quelle était la nature de ce malheur et que c'est ça la cause de son échec, c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas vu quelque chose qui venait de beaucoup plus loin. Quel est ce quelque chose qui vient de beaucoup plus loin?
Marcel Gauchet.
Alors là, le phénomène fondamental, c'est la manière dont la France a négocié l'entrée dans la nouvelle période historique où nous sommes, qui est caractérisée par la mondialisation. C'est le phénomène, c'est le ratage français qui me semble expliquer sur le fond toute l'instabilité politique.
Pourquoi le ratage français?
La France n'a pas su gérer son entrée dans la mondialisation.
Mais la France est la cinquième puissance économique mondiale, Marcel Boucher.
La sixième, plutôt.
Enfin bon, sur 200 pays, on peut raffiner, mais disons que c'est l'un des pays les plus riches et les plus prospères de la planète.
Précisément.
De très très loin.
Oui, mais c'est pas comme ça que les peuples d'abord vivent. Cette réussite mondiale n'est pas dans la vie quotidienne de la plupart des Français. Elle est un résultat d'une histoire, d'une grande histoire, et le sentiment des Français est celui d'un déclin par rapport à cette position phare qui était la leur. Je vous rappelle, c'est très loin, mais qu'au début des années 1970, un think tank américain avait fait de la France potentiellement la première puissance économique mondiale. On était dans une phase d'euphorie gaullienne où le taux de croissance français...
Enfin, vous aidez la belle époque du LSD, mais on est toujours membre du G7, Marcel Gaucher.
Mais bien sûr. Mais je veux simplement caractériser une trajectoire qui est celle, même si nous partons d'un acquis qui nous range dans les pays les plus favorisés du globe... le club européen occidental.
Très petit à l'échelle du globe.
Mais à l'intérieur de ce club, nous sommes. À l'intérieur de ce club, nous sommes l'élément qui paraît décroché de ce peloton de tête. Et pour la France, c'est très important parce que c'est un pays qui, depuis la Révolution française en particulier, avant en réalité, avait l'habitude de faire la course en tête. Et c'est la course en tête, par exemple, aussi sur le plan de l'innovation industrielle, sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan de la production culturelle, sur tous les plans qui font qu'un pays apparaît comme un modèle ou comme une avant-garde, et que le sentiment collectif le plus banal est que nous sommes en train de nous marginaliser par rapport à ce rôle glorieux de notre passé. Nous ne sommes pas à la hauteur de notre passé. Et c'est ça que les Français vivent comme un malheur.
Enfin, les Français, là, en l'occurrence, c'est... Gilles Finkelstein, oui, parce que c'est pas à moi de débattre avec vous, mais en l'occurrence, Gilles.
Oui. On lit ce livre d'entretien un peu comme on regarde un film de Tarantino. Ça défouraille dans tous les coins avec jubilation. Et donc, que l'on partage un peu, beaucoup, passionnément ce que vous dites, on le lit non seulement avec intérêt, mais avec plaisir, même si on aurait aimé à certains moments que vous dévoiliez un peu plus, parce qu'il y a de l'implicite dans ce que vous défendez, et on aurait aimé...
Et il y a quand même beaucoup moins de violence et beaucoup moins de sexe que chez Tarantino, je le précise quand même.
Alors,
pour
oui.
Nos auditeurs.
Il y a moins de sexe, mais il n'y a pas beaucoup moins de violence, parce que Marcel Gaucher est un sniper souriant, mais impitoyable. Si on revient sur le point de départ, c'est-à-dire sur l'élection d'Emmanuel Macron, dont vous décrivez très bien à la fois les conditions structurelles et l'enchaînement de circonstances qui ont permis son élection, vous dites au début du livre que l'orientation générale était assez inexistante, hein, pour reprendre la formule que vous utilisez. Est-ce que ce qui était au cœur de cette élection n'était pas l'orientation, mais d'abord la rupture avec le système politique. Dans une élection qui était une élection de rupture, ce que Emmanuel Macron a réussi à faire, c'est à incarner la rupture, non pas avec les politiques publiques, mais avec la politique elle-même. Et est-ce qu'il n'y avait pas, malgré tout, une orientation qui était projeter la France dans l'Union européenne et permettre l'émancipation individuelle des Français ? Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même ça aussi ?
Oui, Marcel Gaucher.
Bien entendu, il y avait l'ambition de redonner à la France, par l'acceptation beaucoup plus marquée des règles du jeu européen, un rôle de leader. Emmanuel Macron a même employé une formule extraordinairement ambitieuse, une refondation de l'Europe dont la France aurait l'initiative intellectuelle, bien entendu avec l'accord de ses partenaires. Beaucoup de malentendus autour de cette formule qu'il traîne un peu comme un boulet depuis lors sans réussir véritablement à l'incarner et à la crédibiliser auprès de nos partenaires, ce qui est encore plus grave. Mais l'autre ambition, le non-dit, si je puis dire, parce que c'est à la fois très présent dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et peu... formalisé sous forme d'une institutionnalisation quelconque, c'est l'idée de rompre avec ce sentiment de divorce entre les gouvernants et les gouvernés, avec sur le thème de, bien connu, sonder jour après jour, les Français ne se reconnaissent pas dans leurs représentants, ou plus exactement, ils pensent que les gouvernants ne sont pas à l'écoute de leurs préoccupations. Une des grandes promesses, à mon sens, clé dans la campagne de 2017 de la part d'Emmanuel Macron, c'était celle d'une écoute de la société. Et le jour même, si je puis dire, de son intronisation, il affiche une verticalité qui va se confirmer dans la suite de son attitude, où on a l'impression que cette écoute des Français qui attendaient pour beaucoup d'entre eux un changement de style de la politique ne se réalise en rien.
Natacha Polony.
Sans doute parce qu'il incarne justement plus encore que beaucoup d'autres gouvernants français, ce courant qui est le courant dont vous expliquez qu'il vient fracasser les structures mêmes de la République française, à savoir ce courant néolibéral qui est fondé, enfin qui a un potentiel d'autoritarisme, ce qui peut-être n'apparaissait pas jusqu'à présent. C'est toute la différence entre le libéralisme politique et ce néolibéralisme qui s'affiche même dans les structures de la haute administration de l'État, et c'est ça qu'incarne Emmanuel Macron. Le problème, et vous le montrez bien dans votre livre, c'est que cette mondialisation qu'il entend porter, en fait, le projet, c'est d'adapter la France à cette mondialisation, ne pouvait qu'échouer, si on vous lit, parce que, justement, cette mondialisation s'oppose au fondement philosophique du projet républicain. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore résolu. Est-ce qu'on va le résoudre dans cette campagne, dans cette nouvelle campagne présidentielle ? Je n'en ai pas du tout l'impression.
Pour le résoudre, ce problème, qui est le problème clé, il faudrait commencer par le poser. C'est-à-dire admettre qu'en effet, il y a un modèle français hérité de l'histoire, que le mot de république résume assez commodément, et qui est orthogonal, en contradiction directe, avec les valeurs majeures que met en œuvre la mondialisation financière actuelle. Nous vivons un décalage culturel, que nous le subissons. Quand je parle de malheur français, je veux dire...
Mais la France y participe.
La France participe à reculons.
Enfin, reculons, elle a des champions industriels financiers, par exemple, qui en font l'un des acteurs majeurs de la mondialisation financière.
En dehors de la France. Car ce qui est remarquable dans les grandes entreprises multinationales françaises, c'est que l'essentiel de leurs activités se situe précisément en dehors de la France, même si elles ont, évidemment, un siège en France. Le siège en France, c'est le travail ailleurs. C'est en gros la formule, je simplifie à outrance, mais je crois qu'on est proche de quelque chose de ce genre. Et c'est bien le problème, c'est que nous n'avons pas une économie productive, comme celle qu'évoquait tout à l'heure Natacha Polony, qui soit dans la mondialisation. Nous sommes un pays qui vit sur un acquis, mais qui ne participe pas dans son modèle intellectuel à cette mondialisation pour laquelle elle se sent étrangère.
Gilles.
Vous disiez tout à l'heure que une des grandes promesses d'Emmanuel Macron était d'essayer de rompre ce sentiment de divorce entre les gouvernants et les gouvernés, et je le traduis à ma manière, que la promesse d'horizontalité, c'était immédiatement substituer une pratique de verticalité. Est-ce que ça ne trouve pas aussi son origine dans quelque chose de plus profond que moi j'observe depuis maintenant 20 ans, qui est que chaque président de la République élu pense la fonction présidentielle simplement en contrepoint de la manière dont l'exerçait son prédécesseur. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy devient le président hyperactif, que François Hollande devient un président normal et que, en contrepoint, Emmanuel Macron devient un président vertical. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au bout ? Et là aussi, je vous disais tout à l'heure, on aimerait en savoir plus. Vous dites qu'il y a une forme d'épuisement de la Ve République. Qu'est-ce qu'on fait ?
Marcel Gauchet.
Je ne suis pas candidat, donc je n'ai pas de programme à vous proposer.
Vous avez donc une liberté de parole qui vous permet de nous dire ce que vous pensez vraiment.
Vous avez absolument raison. Je pense que cette manière de se démarquer du prédécesseur est une des règles de base du jeu politique dans l'exercice de la fonction présidentielle.
Oui, mais vous dites quand même que les derniers présidents ont une matrice commune, en l'occurrence le Mitterrando-Chiracisme, dont l'un des derniers avatars à droite a été Nicolas Sarkozy et qu'à gauche c'était François Hollande. Emmanuel Macron venant un peu brouiller le jeu.
Oui, je crois que c'est l'analyse qui me paraît s'imposer, mais ce que Gilles Finkelstein pointe très justement, c'est ce que j'appellerais, moi, une contradiction des attentes des Français eux-mêmes. Car la demande d'horizontalité était très forte en 2017, alors pourtant que on peut dire que François Hollande n'incarnait pas un président autoritaire. Et cependant, en effet, il y a un investissement français très spécifique qui fait partie du modèle républicain, bien ou mal compris, qui est la demande de verticalité du pouvoir. Les Français veulent un pouvoir fort. C'est une des choses à quoi la Ve République a su répondre par rapport au régime antérieur, qui était la faiblesse caractéristique du pouvoir sous la Ve République.
Enfin, le général de Gaulle a su répondre, écrivez-vous, et Emmanuel Macron essaye de mettre ses pas dans les siens, sauf qu'il n'en a pas la légitimité.
Il ne peut pas l'avoir. Personne ne peut plus avoir la légitimité d'un homme issu d'un conflit mondial et d'un épisode de notre histoire aussi remarquable que la Résistance. Personne ne l'a, cette légitimité-là. Et c'est un point essentiel, parce que ça veut dire, d'une certaine manière, qui pose la question de nos institutions, est-ce qu'elles ne sont précisément pas taillées pour un rôle présidentiel trop fort par rapport à ses possibilités effectives? Ce qui nous engage dans toute la question de l'équilibre institutionnel.
Dans votre livre, il y a bien plus que cette question du pouvoir, la question de la puissance et de l'impuissance, qui me semble plus fondamental encore, parce que le problème n'est pas tant l'exercice du pouvoir que le fait que dans ce courant que vous appelez Mitterrando-Chiracisme, il y a en fait un abandon de la part des politiques de la possibilité même d'agir et une sorte d'immense malentendu, voire une forme d'hypocrisie, puisqu'en fait ils ont fait le choix de ne plus agir sur le monde tout en maintenant les apparences. Et que c'est ça le cœur de la contradiction. Nous observons aujourd'hui une demande d'action politique qui se traduit de différentes manières, et notamment par la façon dont les candidats à l'élection présidentielle multiplient les propositions, notamment à droite, sur le fait d'aller contre les traités européens, le fait de revenir sur l'obéissance à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et le phénomène de pointe, c'est la montée dans les sondages d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour incarne-t-il seulement cela, ou n'incarne-t-il pas aussi, et c'est peut-être ce qui explique sa montée, la peur du déclin que vous décriviez? C'est quoi le phénomène auquel nous assistons et qui peut être très éphémère, mais en tout cas qui raconte quelque chose?
Marcel Gauchet.
En effet, Éric Zemmour est un révélateur d'une attente très diffuse dans l'opinion, et en fait, d'abord, l'attente d'une nouveauté par rapport à ce que... C'est un autre démarquage par rapport à son prédécesseur. Emmanuel Macron était la promesse d'une nouveauté qui s'est un petit peu banalisée. Eh bien, nous voulons une nouvelle nouveauté, si je puis dire. C'est très important dans le phénomène. C'est l'outsider. Nous voulons un outsider. Nous ne voulons pas des insiders qui sont les habitués du système. C'est d'abord ça pour moi.
Enfin, il n'est pas encore élu.
Non. Mais sa candidature suscite de l'intérêt, et cet intérêt est à déchiffrer. Il est l'outsider qu'on attendait d'une certaine manière, même si par définition un outsider est inattendu. Et puis par ailleurs, en effet, il est l'incarnation qui justifie d'ailleurs l'indifférence de l'opinion à ces transgressions qui sont tout de même assez étranges. Hein, je pense à son masculinisme ostentatoire qui n'est pas en phase avec le climat social ambiant.
Vous parlez de la réhabilitation du maréchal Pétain, par exemple, la déportation des Juifs.
Et la cerise sur le gâteau de cette transgression, mais la transgression vaut pour elle-même. C'est ce qu'on a vu avec le phénomène Trump aux États-Unis, qui est un trait nouveau de nos phénomènes d'opinion. Il transgresse, donc il n'a peur de rien, donc c'est justement le candidat de l'efficacité, puisqu'il, lui, n'est pas arrêté par les tabous devant lesquels les autres s'inclinent. Et je crois que c'est quelque chose de très important qui se joue non pas dans le contenu, mais dans la forme, dans la manière, dans les attitudes, dans le style, c'est ça le phénomène Zemmour, dont on ne peut absolument pas prédire les chances durables de devenir une politique. A priori, je suis tenté de ne pas y croire du tout. Mais nous savons que la surprise fait partie du jeu politique. Mais la question que soulevait Natacha Polony est essentielle, c'est qu'en effet, il y a eu un tour de magie remarquable, il faut le dire, en termes d'habileté politique, c'est là le tour de passe-passe du siècle de François Mitterrand. Il voit très bien, très vite, c'est le tournant de 1983, que la politique socialiste qu'il avait engagée en 1981 n'est pas possible et que il faut se rendre à ce qui est en train de devenir la nouvelle loi du monde. Il sait aussi, parce que c'est un grand connaisseur de la politique française et de l'histoire de ce pays, que c'est pas possible de le dire de front aux Français, surtout venant de lui, venant de la gauche socialiste. Et du coup, il trouve le trou de souris par lequel faire passer la pilule. Ce trou de souris, c'est l'Europe. L'Europe est, à ce moment-là, dans les années 1980, extrêmement légitime dans l'opinion. Et donc, puisque l'Europe est légitime, elle va nous permettre de faire ce que, moi, en tant que président français, je ne pourrais pas faire avec ma gauche socialiste qui serait balayée si elle prenait en charge la politique que l'Europe va nous permettre de faire.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous venez d'évoquer
les
traits nouveaux avec ces traits nouveaux avec Éric Zemmour, la politique de François Mitterrand vis-à-vis de l'Europe et la manière dont elle a bousculé la gauche. Dans votre autre livre, puisque vous en publiez deux en même temps, vous êtes plutôt sur les permanences. Vous republiez ce qui a été un des articles fondateurs des lieux de mémoire de Pierre Nora sur l'histoire et la genèse du clivage gauche-droite, dans lequel vous montriez à la fois combien ce clivage vient de loin, mais combien aussi il n'a structuré le paysage politique que pendant de courtes périodes. Il y a eu une longue période qui est du début de la Ve République jusqu'à l'élection présidentielle de 2017, où il a été bousculé sur le plan idéologique, c'est ce que vous évoquiez avec François Mitterrand. Mais ce qui est nouveau depuis 2017, c'est qu'il est bousculé aussi d'un point de vue électoral, où il ne devient plus le clivage central. Ma question, en fait, est la suivante. Si on revient sur ce qui est pour vous l'élément le plus important, c'est-à-dire ce que vous appelez l'orientation idéologique de base, est-ce que le clivage gauche-droite est déstructuré de manière profonde et durable parce qu'il y a des questions qui ne rentrent pas dans le clivage gauche-droite, ou est-ce que, parce que le clivage gauche-droite est un contenant avant d'être un contenu, il y a matière à le reconfigurer?
Marcel Gauchet.
Je crois que nous sommes effectivement dans un moment de transition et que il s'agit moins d'un dépassement, le dépassement du clivage gauche-droite que revendiquait Emmanuel Macron, que de sa reconfiguration, redéfinition, sous un signe inédit, qui est la perte de la centralité qu'il occupait dans la constitution des identités des citoyens. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'intégration du pluralisme, si je puis dire, dans les mentalités démocratiques. Je suis de droite, mais bien entendu, j'admets qu'il y a des gens de gauche, et j'admets donc qu'il y a un bien fondé relatif par rapport à mes propres valeurs dans la gauche, ou je suis de gauche, mais je dois admettre que tout n'est pas acheté dans ce que réclame la droite, car il y a plus qu'une légitimité, quelque chose qui fait écho à mes propres préoccupations. Le clivage gauche-droite a été en fait érodé par l'intégration du pluralisme démocratique, ce qui provoque des phénomènes de perturbation majeurs. D'abord, le brouillage du champ politique. On ne sait plus très bien, du coup, se situer de façon frontale dans une opposition claire qui fait qu'on est une fois pour toutes dans un camp. Mes parents votaient à gauche, donc je suis de gauche,
oui.
Et ainsi de suite. On n'est plus dans... Et du coup, il y a un phénomène de désaffection vis-à-vis de la politique qui est provoqué, en fait, par l'intégration du clivage et non pas par sa négation. Car quand les gens... Quand on demande aux gens de se situer, Gilles Finkelstein le sait beaucoup mieux que moi, 40 spécialistes de l'opinion, de se situer sur l'échelle gauche-droite, ils n'ont pas de grandes hésitations à le faire, ils l'acceptent très volontiers. Mais en revanche, ça ne détermine plus de façon automatique, en quelque sorte, leur vote. Et dans l'autre sens, cette relativisation du clivage provoque des phénomènes de polarisation qui, évidemment, occupent l'attention. Éric Zemmour, dont on vient de parler, étant l'incarnation type, mais on a la même chose, d'une certaine manière, dans une espèce de nouvelle gauche qui se cherche tantôt sous le signe écologique, tantôt sous le signe d'une autre extrême gauche que celle à laquelle on était habitué, une extrême gauche populiste, comme celle que revendique Jean-Luc Mélenchon. Donc, on a un grand moment de brouillage et probablement un grand moment de reconsolidation de ce clivage qui viendra derrière, à mon sens.
Il nous reste très peu de temps.
Si je puis risquer une prophétie.
Oui, justement, c'est sur cette prophétie que je voulais vous interroger, parce qu'en vous écoutant, je me disais tout de même que nous sommes dans une phase, au contraire, de réactivation de formes de violence politique, de détestation du camp d'en face, que je trouve profondément marquante. Et j'ai l'impression que, au contraire, ce qui est en train de se reconstruire, c'est l'incapacité à parler avec celui qui ne pense pas de la même manière et qui est même en train de bousculer la démocratie parce que c'était aidé par les réseaux sociaux et par la polarisation qu'ils construisent.
Mais à condition de ne pas se tromper sur l'ensemble du tableau, c'est-à-dire que ce que nous voyons, c'est la radicalité, et la radicalité excluante, avec en effet une propension négatrice de son interlocuteur. Mais il y a le centre qui est beaucoup plus important. Mais jamais l'expression de majorité silencieuse ne m'a paru avoir autant de sens.
Mais pardon, mais le centre,
et c'est elle qui fait quand même les élections.
N'est-il pas tout aussi excluant ?
Il y a abstention. Il y a abstention, mais il y a aussi extériorisation par rapport à la politique qui ne veut pas dire absence de conviction politique. Distance au jeu politique, oui, mais pas forcément du tout indifférence de fond à la politique et absence de simple opinion pour son propre compte. Je le crois pas du tout. Donc, nous sommes dans un moment extraordinairement difficile à déchiffrer et je crois qu'il faut pas se laisser tromper aux extrémisations que nous observons, qui occupent le devant de la scène par nature, mais qui trompent sur ce qui se joue dans l'alchimie globale de l'opinion du pays.
Il reste 2 minutes.
Eh bien, en 1 minute, quand on a un centre qui revendique d'être l'incarnation de la raison, est-ce que ce centre est moins excluant que ceux qui ne sont pas ce centre ? Je m'interroge. Or, c'est exactement ce qui est en train de se reconstruire.
N'exagérons pas. La virulence de ce centre qui me semble très supportable par rapport à ce qu'on peut connaître.
Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire, je prolonge ce que dit Natacha, alors que on voit en quoi le clivage gauche-droite a quelque chose de positif, en sens où chacun peut être légitimement de gauche ou de droite, il n'y a pas le bien et le mal d'un côté, alors que quand on est dans un clivage de raison, la raison contre la déraison, eh ben, c'est autre chose.
Ah oui, non, mais ça, c'est de la rhétorique politique sans aucune pertinence de fond. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter trop à ces épiphénomènes de discours, je dirais de communicants en mal de contenu à communiquer. Mais je ne prends pas du tout au sérieux sur le fond.
Dernière chose, et pour préciser justement votre bilan du quinquennat Macron avec cette peut-être sortie de crise que nous vivons, vous dites que c'est l'État-nation qui nous a permis de tenir pendant la crise. Vous l'écrivez, est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer que c'est grâce à l'Union européenne, grâce à la Banque centrale européenne, que le quoi qu'il en coûte a été possible, et que c'est finalement grâce à l'Europe et à sa construction que la France a pu, comme d'autres pays de l'Union, s'en sortir, ou en tout cas limiter la casse sociale et économique.
Le quoi qu'il en coûte a été la loi du monde dans cette crise du Covid-19, et elle a trouvé évidemment des incarnations très différentes selon les moyens de chacun. C'est le quoi qu'il en coûte suppose néanmoins d'avoir quelques ressources derrière pour payer ce qui n'a pas de prix.
Merci Marcel Gauchet d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Ce livre de dialogue avec Éric Conan et François Azouvi, Macron, les leçons d'un échec. C'est le 2e tome de cette série, Comprendre le malheur français. J'espère que le 3e tome sera consacré au bonheur français, qui sait. En tout cas, c'est publié chez Stock. La droite et la gauche, histoire d'un destin. C'est l'article si important importants que vous aviez publiés dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. Gilles le rappelait, c'est donc dans la collection Le Débat chez Gallimard. Merci Gilles et Natacha, merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Johanna Gabric. À suivre le journal de 13h.